dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. In our heart, in our head, this is when we are young. In our heart, in our head, this is when we are young.
Tout de suite, Lenny et Nico sur Radio Cactus.
Bonjour à tous, c'est Lenny et Nico sur Radio Cactus. Aujourd'hui, on a la chance de vous animer pendant une heure, de 13h à 14h. Et maintenant, Lenny, qu'est-ce qu'on aura au programme ?
Alors tout d'abord, bonjour à tous. Et donc Nico, pour répondre à ta question, au programme, on aura une chronique de Jesse Evan, une magnifique interview du célèbre humoriste Vincent Cuchol, et pour finir, un horoscope.
Et Lenny, est-ce qu'on a des dédicaces ?
Alors oui, on a une dédicace d'Emilie. Coucou, c'est Emilie. Vous assurez, gros bisous à tout le monde, et dédicace à Kiki. Et on a une dédicace de la grand-mère à Samy qui nous dit « On vous écoute en Saint-Georges et le signal de Boogie. Bravo à tous, gros bisous. » Maintenant, on s'écoute Soprano, Fit, Niska, Zoom. À tout de suite sur Radio Cactus.
Allelu, alléluia. Hermano Soprambaba. Hermano Shahuela. Yeah. Je suis toujours resté le même, je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc, oui, comme ma première SACEM. 20 ans au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter, je sais que je devrais en laisser. Mais bon, je ne sais que les dresser, car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffes, leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre. Donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens. Zoom, 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 comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Ah, c'est Yesu.
Bijouterie, j'ai pas laissé mon ADN.
Ah ouais, ouais.
Me demande pas le juste prix. Le bail c'est de la frappe, tu paies.
Ah ouais, ouais.
Evry c'est méchant, méchant, méchant comme Marseille ou Chicago. Platin au plomo, tous les jours je vais péter le mago. J'ai toujours un flingue dans la wagon. Bye bye, bye. Chiant, Vita, Vexo, Bratois, t'es dans l'ombre.
La cité, la cité.
Chiant, car les flics au pat, on a dit mon nom.
La cité, la cité.
Toto, Rina, c'est Pequeño.
Au Brasil.
Fodes, Caray, Ombre, Chico.
Cocaïna. Ah. Jamais on trahira la Honda. Pour de l'oseille ou bien des nanas. Jamais on trahira la Honda.
Zoom, zoom, zoom. Comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Ah, c'est yes. Comme
ça va stano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda.
C'était Zoom de Soprano. N'oubliez pas de réagir à l'interview de Vincent Cuchol à 1h15 au 078 748 18 91. Maintenant, on s'écoute Meek Mill Going Bad, suivi de la chronique de Jesse Evan. A tout de suite sur Radio Cactus.
Radio Cactus,
la radio qui vous plante.
Yeah.
Weezy.
Back home smoking legal. I got more slaps than the Beatles. Foreign shit running on diesel, dog. Playing with my name, this shit is lethal, dog.
Who you see? What?
Don Corleone. Trust me, at the top it isn't lonely. Everybody acting like they know me, dog. Don't just say it now, you gotta show me
what you gotta do.
Bring the clip back empty. Yeah, asked to see the ball, so they sent me, dawg. I just broke her off with a 10-piece, dawg. There ain't nothing, I'm just being friendly, dawg. It's just a little 10-piece for it, just to blow it in the mall. Doesn't mean that we involved. I just put a Richard on the card. I ain't go playing ball, but I'll show you how the fuck you gotta do it. If you really wanna ball till you're five, when you're back against the wall, and a bunch of niggas need you to go away. Still going bad on them anyway. Saw you last night, but did it broad day. Yeah, a lot of murk caught me in a hard way. But got a sticky and I keep it at my dog's place. Girl, I left you loving magic, not saw shade. Still going bad on you anyway.
Whoa, whoa, ooh, whoa, whoa.
I can feel like 80 rats in my Amiris. Me and Drizzy back to back, it's getting scary.
Back to back.
If you fucking with my eyes, just don't come near me.
Get out my way.
Put some bins all on your head like Jason Terry. Richard Millie, cuss a Lambo. Known to keep the better bitches on commando.
Salute.
Every time I'm in my trap, I move like Rambo.
It's Dindy.
Ain't a neighborhood in Philly that I can't go.
That's a Fendi.
For real. She said, oh, you rich, rich.
You rich, rich.
Bitch, I graduated, call me Big Fish.
Ballin'.
I got Lori Harry on my wish list.
That's Lori.
That's the only thing I want for Christmas. I been in my way out, yeah, yeah, no, that's facts.
Facts.
You ain't living that shit you said, yeah, we know that's cat.
That's cat.
You ain't got the ass in when you see me, no, I'm straight. DTOVO, we back again, we going back. It's just a little 10-piece for it, just to blow it in the mall. Doesn't mean that we involved. I just put a Richard on the card. I ain't go playing ball, but I'll show you how the fuck you gotta do it. If you really wanna ball till you're five, when you're back against the wall, and a bunch of niggas need you to go away. Still going bad on them anyway. Saw you last night, but did it broad day.
C'était Meek Mill Going Bad en feat avec Drake. Il est 1h11. Petit rappel, n'oubliez pas de nous envoyer des dédicaces au 078 748 18 91. En parlant de dédicaces, il y a Hugo qui nous dit « Est-ce que vous pouvez refaire ma Didi ?» Je ne l'ai pas entendu. Bon, attends, j'espère que tu l'as entendu. Jess et Evan, on vous écoute.
Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous parler des villes les plus bizarres au monde.
Numéro 1. La ville qui est en feu depuis 1962. Située en Pennsylvanie, la ville de Centralia a pris feu en 1962 dans les mines à charbon. Les habitants furent ordonnés d'évacuer et l'incendie risque encore bien de durer 250 ans. Numéro 2. La ville souterraine. Au sud de l'Australie, la ville de Cooper Pedy, n'est pas comme les autres car elle a été construite sous terre. Cette décision a été prise en vue des nombreuses tempêtes de sable que subissaient les habitants. Cette ville contient des restaurants, des magasins et toutes les choses qu'on peut trouver dans des villes. Numéro 3. La ville qui a le plus long nom au monde. Alors excusez-moi d'avance si j'écorche le nom parce que c'est un peu compliqué. La ville de Bangkok en Thaïlande a pour nom complet Kaung Tren Mahanakhon Amon Batanakosin Maintara Ayutthaya Mahadilok Phot Nopharat Ratchathani Buriram Udomratchonivet Mahasatan Amon Pimon Awatan Said Sakataitiya Watunakam Prasit. Oh oui, et ce nom contient 163 caractères. Et maintenant, numéro 4, la ville avec le nom le plus court au monde. Et maintenant, changeons radicalement, dans le département de la Somme, en France, la ville se prénomme I, mais s'écrit avec un Y. Les habitants ont pour consolation de s'appeler les Ypsiloniens.
Numéro 5, la ville la plus ancienne au monde. La ville la plus ancienne au monde est la ville de Jéricho. Elle est vieille de plus de... Elle date de 11 000 ans et apparaît même dans la Bible. Numéro 6. La ville dans un seul bâtiment. La ville de Whistler, en Alaska, se trouve dans un seul et même immeuble de 14 étages et s'y trouve 220 habitants. On peut y trouver une église, un commissariat, des magasins et tout ce qu'on peut trouver dans une ville ordinaire. Cette décision a été prise pour économiser dans le chauffage et vu de la température très froide. Numéro 7. La ville aux poupées. La ville de Nagaro est une... La ville de Nagaro, sur l'une des principales îles qui forment le Japon, est composée de seulement 35 habitants. Ayano a décidé de repeupler cette ville, si je puis dire, les poupées en tissu fait par lui-même.
Merci Jesse Evan pour cette super chronique. Maintenant l'interview de Vincent Cuchol, mais avant tout on s'écoute Big Flo et Oli plus tard. A tout de suite.
Big Flo et Oli, tu connais non? Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux, que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai, et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Changé, pas grand chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
On disait,
tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas.
Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur.
Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
On disait,
tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas.
Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels.
Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose.
je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
On disait,
tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard, plus tard.
Bonjour à tous, on se retrouve avec Vincent Cuchol. Bonjour Vincent Cuchol.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'est un plaisir de vous recevoir sur Radio Cactus.
C'est un plaisir d'être là.
Alors, vous êtes né en 1975 à Moudon.
Il y a longtemps.
Si je vous dis les Brandons.
J'y suis jamais allé à Moudon.
Jamais.
Brandon. Non, j'étais à ceux de Payerne, où j'ai vomi.
C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé?
Vomir, c'est quand on a mangé quelque chose et qu'on recrache.
Non, mais quand... dans quelles circonstances?
Eh ben, à ton avis.
Bah bon, on va pas en dire plus.
Non.
Alors, vous êtes en train de faire votre spectacle, Le Fric, un spectacle cher.
On vient de le finir.
Mais vous avez annoncé une nouvelle date.
Oui, on l'a fait pas très loin d'ici.
Ouais. Le samedi 27 juillet.
C'est ça.
À Paléo, sur la grande scène.
À 21h, oui, sur la grande scène.
Pour l'instant, est-ce que ça se passe comme vous l'aviez prévu?
On sait pas parce que la billetterie ouvre la semaine prochaine. Je crois, donc on ne sait pas si ça va intéresser les gens, mais comme on n'est pas les seuls sur l'affiche, ça ne dépendra pas que de nous. Mais on sait que Paléo est un événement qui marche assez bien année après année, même si les gens critiquent beaucoup sur les réseaux sociaux et sur les sites de news. J'ai été voir sur 20minutes.ch, il y a beaucoup de gens qui critiquent comme chaque année la programmation, mais finalement c'est quand même toujours complet. Donc.
Et jusqu'à maintenant, vous avez fait plusieurs spectacles dans toute la, enfin, en Suisse.
Ouais.
Et est-ce que ça vous a plu?
Ça nous a beaucoup plu. Ouais. On se réjouit de faire cette version spéciale open air qu'on va, on va adapter le spectacle qu'on a joué pendant une année, ouais, pour tenir compte du fait que les gens sont debout, qu'ils attendent un peu plus de musique que dans un théâtre, et puis que on est très contraint par le temps, on peut pas se permettre de faire trop long parce qu'il y a un programme qui est très minuté quand on est sur la grande scène du Palais, parce qu'il y a trois artistes qui passent le même soir.
Ok. Et durant votre carrière, vous avez fait beaucoup de choses. Vous êtes diplômé de sciences politiques.
Oui.
Vous avez écrit des ouvrages.
Mm-hmm.
Vous avez fait de la radio, de la scène, maintenant de la télé, et vous avez aussi fait quelques films. Vous avez tourné dans des films.
Oui.
Et quel est votre meilleur souvenir jusqu'à présent?
Dans ma vie. La première fois où j'ai fait l'amour. T'as déjà fait l'amour?
Est-ce que vous avez quelques anecdotes sur votre carrière professionnelle?
Ah, j'ai cru sur la première fois où j'ai fait l'amour.
Non,
c'était très rapide. Quelques anecdotes sur ma carrière professionnelle.
Oui.
C'est vaste comme question. Dans quel secteur? Parce que t'en as cité plusieurs.
La radio.
Des anecdotes sur ma carrière à la radio. Wow, tu me prends au dépourvu, c'est un peu... qu'est-ce que je pourrais dire? Une anecdote, il y en a des pétés.
Bah oui, mais au moins une.
Alors, grand-papa se remémore la première fois où j'en ai fait, c'était en 2006, et ça m'a tout de suite plu beaucoup. Et puis c'est peut-être la dernière fois aussi où j'ai eu vraiment le trac, c'était à la radio, vraiment fort, c'était sur la première... Un jour, je devais parler de quelque chose de sérieux et j'ai eu fort le trac, c'est-à-dire le ventre noué. C'était dans le forum, l'émission de la première le soir à 18h, pour parler d'un sujet sérieux. Donc, je me suis rendu compte que j'avais plus de peine à parler de sujets sérieux que de sujets un peu pour rigoler.
C'est plus facile et plus divertissant de parler de sujets...
C'est plus dans mon naturel.
Alors, sur 120 minutes, vous mettez en scène un faux journal qui a pour but de traiter l'actualité avec humour, mm-hmm. avec des vrais invités et aussi des faux invités, des invités fictifs.
Mm-hmm.
Vous jouez fréquemment le rôle de faux invités dans la peau d'un chasseur, d'un journaliste de sport, en passant par un militaire, et j'en passe encore. Est-ce qu'il y a un rôle que vous préférez jouer?
Non, je les aime tous, les personnages que j'interprète. C'est un peu un prérequis d'apprécier le personnage dans lequel on va se glisser, de s'y sentir bien, de se sentir bien dans sa peau. Donc je les aime tous. Après, il y en a certains que j'ai plus de plaisir ou que je maîtrise mieux parce que je les ai fait le plus souvent. ou qu'ils sont plus fous, qu'ils offrent un spectre plus large pour dire des choses. C'est le cas du businessman suisse-allemand qui s'appelle Reto Zennhäuser. Ça, j'aime bien le jouer parce qu'il a un univers vraiment large et que quand on parle de... Il parle toujours d'économie. C'est un peu son dada. Et quand on a ces lunettes-là pour parler de la réalité, c'est intéressant, je trouve. Puis j'aime bien faire aussi le toxicomane. L'opposé, il est vraiment très différent. Puis j'aime bien aussi faire le jurassien aux grosses lunettes qui s'appelle Gilles Surchat. Donc c'est trois caractères vraiment bien, bien différents les uns des autres. Mais dans les trois cas et dans tous les autres aussi, c'est toujours un peu des cons, ces personnages. Et ils mettent en scène, j'aime bien, on aime bien dans le travail qu'on fait avec mon compère Vincent, mettre en scène des petits défauts. Et souvent, un défaut que tout le monde a tout de même en soi, c'est d'être, on est tous un peu le con de quelqu'un. Et de mettre en lumière ou de mettre en scène ou de... mettre en avant la part un peu de bassesse humaine chez chacun, c'est aussi une manière de critiquer, d'apporter un regard un peu critique sur certains univers, par exemple l'armée ou l'économie ou tous les domaines dont on parle, voilà, de faire ressortir les parties, les dimensions un peu... Tu suis ?
Oui, bien sûr.
Je fais long, excuse-moi.
Non, il n'y a pas de souci.
On a l'impression d'être sur Espace 2. Non, mais les dimensions plus critiquables ou qu'on peut pointer du doigt pour faire un petit peu réfléchir.
Ouais. Moi, il y en a un que je préfère, c'est ce que j'avais bien aimé, c'est sur 26 minutes. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous avez fait Le Fumeur.
Ouais.
Avec les cheveux longs.
Ouais.
Bah, celui-là, j'avais bien aimé. Il était.
Celui qui parle comme ça. Ouais, parce qu'il fume trop de cigarettes. Mais ça, c'est plus facile à faire à la radio parce que le micro est tout près de la bouche.
Ouais, celui-là, vraiment. Celui-là, c'est un de mes. un de mes préférés. Un de. Il manque juste. Il manque la
perruque.
Coiffure,
exactement. Ouais, mais on est à la radio.
Bah ouais. Mec. Faut prendre des photos. Pour les photos, il faut la perruque.
Bah ouais.
En 2017, vous passez sur la RTS. Dans une interview de Darius Rochebain, de Pardonnez-moi, sur Pardonnez-moi, et vous dites que les spectacles en France ne vous intéressent pas trop.
Mm-hmm.
Est-ce qu'il y a une raison ?
Mais parce que c'est en France.
Mais est-ce qu'il y a une différence entre le public français et le public suisse ?
Oui, une grosse, c'est que les Suisses, ils nous connaissent et les Français pas. Et donc si on allait jouer en France, on devrait faire une shit pub et aller vendre nos fesses dans les... Enfin, on devrait faire de la promo à mort. Et puis en plus, il se trouve que ce qu'on dit... Vos gueules. Des mecs qui font les coins dans la cour. Non, en plus, on connaît un petit peu la Suisse romande puisqu'on y vit depuis qu'on est né avec Vincent. Donc pour en parler, c'est facile de parler de quelque chose qu'on connaît, qu'on connaît aussi bien dans les faits que dans l'âme des gens qui y vivent. Alors qu'en France, on ne connaît pas le terrain, donc il faudrait qu'on bosse beaucoup plus pour pouvoir parler de la France aux Français. On préfère parler de la Suisse, de ce qu'on connaît à des gens qui sont proches de nous. Et puis pas. Puis aussi, on est bien ici. On n'aspire pas du tout à monter sur Paris.
Ça fait un lien à ma prochaine question.
Ça veut dire que c'était une interview qui est bien construite.
C'est, sur YouTube, quand on regarde par exemple un épisode de 26 minutes ou de 120 minutes, dans lequel vous avez un invité qui touche à un public plus grand. Qui dépasse un peu
ouais,
les frontières.
Par exemple, sur la bœuf.
Non, quand un invité, je veux parler d'un invité, par exemple.
Ah d'accord, genre Orelsan.
Orelsan, ouais. Ou bien, voilà.
Ça touche plus, il y a plus de vues.
Oui, mais quand on voit dans les commentaires, par exemple, des personnes qui prennent...
Ils captent pas.
Ils prennent ça au premier degré.
Bah ouais. Mais il y a eu ça au début, quand on a commencé à faire des chroniques en vidéo. Il y a des gens qui, par exemple, le militaire, et encore aujourd'hui, des gens qui... Lorsqu'on fait un sketch avec le personnage du militaire, il y a parfois des commentaires qui disent « Mais c'est quoi ? C'est incroyable que l'armée laisse ce mec parler, enfin qui croit que c'est vrai.
Oui. »
Et au début, c'était un peu ça qu'on voulait, c'est-à-dire jouer un peu sur la frontière entre la réalité et la fiction, être vraisemblable et donc que les gens puissent se dire « Mais c'est vrai ou ?» Et puis que justement après, on comprend qu'on verse dans le gag, mais si le gag est vraisemblable et qu'on y croit, moi, je trouve que c'est plus cool, quoi. Et c'est encore arrivé récemment, il y a quelques mois ou quelques semaines, à la première, la chronique 120 secondes qui passe le vendredi matin, je faisais un vieillard qui, clairement, déconne, quoi. Et il y a une dame qui a appelé la... Voilà, une anecdote. Tu m'as demandé une tout à l'heure. Hier, qu'il y a une dame qui a appelé la réception pour dire ouais, j'ai trouvé, tu t'es touché par ce monsieur. Est-ce que vous avez son numéro? J'irais bien boire un café avec. C'était vrai. Elle a cru que c'était un vrai monsieur qui venait témoigner. C'est un peu, à la fin, c'était un peu pathétique. Je sais plus quel était le sujet, mais enfin bref, cette dame pensait que c'était un vrai vieillard.
Mais c'est
un joli compliment.
C'est bien parce que ça veut dire que vous jouez bien.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce que vous préférez entre la scène, la radio et la télé?
Chaque univers apporte. Mais bon, si, quand même, je préfère la scène.
La scène?
Ouais, parce que les gens sont là, on peut interagir avec. La télé, c'est lourd. Il y a beaucoup de contraintes, il y a des caméras, beaucoup de gens qui travaillent. Alors, c'est chouette parce qu'il y a une équipe, ça génère une émulation. Les gens de plein de professions se mélangent, on rencontre des gens d'univers différents. Bah, sur une émission, un direct de 120 minutes, il y a presque 40 ou 50 personnes qui bossent. Donc voilà, plus il y a de gens présents dans un endroit, plus il y a de chances que tu fasses des rencontres chouettes. Et puis à la radio, bah, c'est pour le coup, à l'inverse, beaucoup plus intime, il y a beaucoup moins de monde. Et puis on a un autre rapport au temps, on peut prendre le temps pour dire des trucs chiants comme c'est le cas actuellement. Et puis sur scène, ben, les gens, ils réagissent tout de suite, on sait si ça marche ou pas, c'est chaque soir différent, on peut faire un peu de hors-piste, un peu d'impro, ça c'est une liberté que j'aime beaucoup. Mais donc chaque domaine apporte son lot de satisfaction, mais celui qui en amène le plus, c'est quand même la scène. Et quand elle est très grande comme sur l'As, c'est unique, et j'ai encore des souvenirs d'il y a 4 ans quand on y était déjà, très fort, c'est vraiment ça, c'est fou.
Oui.
Ouais, c'est comme... Je pense que c'est peu comparable à d'autres sensations.
Qui est le plus sérieux entre Vincent Veillon et Vincent Cuchol quand vous écrivez vos
émissions? Je crois que c'est moi.
C'est vous?
Je te rassure, l'autre est moins chiant que moi. Ouais, on croit souvent, enfin les gens qui me rencontrent dans le bistrot le soir ou dans la rue, souvent sont un peu déçus parce qu'ils pensent que je fais tout le temps le con, puis en fait pas tellement. Je suis un peu chiant dans la vie.
Faut savoir différencier.
Mais je fais la part des choses entre la vie privée et la vie professionnelle. Ouais.
Comment s'est passée votre rencontre? Est-ce que vous vous rappelez la première fois que
avec Veillon?
Oui.
Ouais. C'était justement à Paléo. Il va y avoir 10 ans. Donc ce spectacle sur la grande scène, c'est un peu pour marquer nos 10 ans aussi de collaboration. On s'est rencontrés à Paléo il y a 10 ans. Il venait de commencer à Couleur 3. Et puis on a très vite sympathisé, malgré notre différence d'âge. On a 10 ans et 4 mois de différence d'âge. Et puis on a fait la fête, bu des verres et assez vite eu envie de faire des trucs ensemble. De collaborer, lui il sortait d'une école, non il y était encore, l'ECAL, l'école d'art de Lausanne, l'école cantonale d'art de Lausanne, où il faisait une formation en lien avec l'image, et puis donc il avait envie d'expérimenter des trucs en vidéo, faire du montage, il était encore assez débutant en la matière, et puis moi je faisais déjà un peu des chroniques sur la 3, Couleur 3, mais que radio, et puis on a monté mon micro, je parle pas assez fort. Et puis voilà, et puis on a eu envie de faire des choses ensemble, de s'amuser sérieusement ensemble.
Et ça s'est passé comment? Parce que vous l'avez dit, il a fait des études d'image.
Oui.
Et comment on fait pour passer des études aux images, pour aller directement à la radio?
Alors il a d'abord commencé par faire de la radio sur une autre chaîne. Donc il a acquis c'est une accumulation d'expérience. Il a acquis l'expérience en la matière. À l'école, il a appris à maîtriser son rapport à l'image fixe et qui bouge, donc photo, vidéo. Et puis à Couleur 3, c'était un terrain d'exercice super où la radio devenait de plus en plus filmée, donc elle était en demande de format vidéo. Et donc il a proposé des choses. Et puis on fait des essais, des erreurs, on s'améliore. Et puis petit à petit, on trouve un chemin qui correspond à sa propre façon, sa propre manière de s'exprimer en la matière.
Et vous avez fait, comme je l'ai dit avant, la science politique.
Mm-hmm.
Et vous avez fait quoi après les études?
Après les études, j'ai fait d'autres études. J'ai fait assistant à l'Uni pendant 2 ans. Puis après, j'ai fait une école de théâtre.
École de théâtre?
Ouais. Pendant 3 ans à Genève.
Ok.
Donc j'ai pas arrêté d'étudier jusqu'à 29 ans.
Ok.
Donc je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Donc je faisais des études pour retarder le moment où il fallait être un grand garçon.
Et comme ça, on fait quelque chose.
Bah finalement, ça se trouve que aussi bien la science politique que le théâtre, sont importants dans ce que je fais aujourd'hui, sont utiles, sont des outils. Mais c'était pas mon projet de faire une émission avec des... C'est après coup qu'on regarde derrière soi, on regarde le chemin parcouru, puis on se dit, ah tiens, ben, c'est tous ces petits chemins que j'ai empruntés, ils sont cohérents.
Et ça aide.
Et ils ont aidé. Ouais.
Merci beaucoup. On va faire une petite pause et se retrouver après une musique de Scap.
Un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canudo de hachís. Saca ya la china tron, venga ya ese china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canudo de hachís. Saca ya la china tron, venga ya ese china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Yo me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legal, legalización,
cannabis
de calidad y barato. Legal, legalización,
cannabis,
basta de prohibición. Legal, legalización,
cannabis,
de calidad y barato. Legal, legalización,
cannabis,
basta de prohibición. ¡Arriba! Ni en Tirso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una china tron, dame ya esa china tron, saca ya la china tron.
No hay chinas.
Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una china tron, yo quiero una china tron, una posturita tron.
No chinas, no chinas soy. No chinas, no chinas soy.
Legal, legalización,
cannabis,
de calidad y barato. Legal, legalización,
cannabis,
basta de prohibición. Legal, legalización, calidad y barato. Legal, legalización,
cannabis,
basta de prohibición.
C'était Cannabis de SKP. Désolé, je me suis un peu trompé avant. Alors on reprend avec Vincent Cuchol.
Tu t'es trompé où?
Ben j'avais dit SKP.
Ah ouais.
C'est scapé.
Ok.
Alors.
Pardon.
À quel moment vous êtes dit, je veux faire de l'humour dans les médias?
Quand une amie m'a proposé en 2006 de faire des chroniques avec elle à Couleur 3, j'avais pas du tout ce projet-là. Elle m'a dit, ah, je dois proposer une chronique. Tu veux essayer de faire ça avec moi? Je dis, ah ouais, bon, ben, pourquoi pas. Et voilà, ça c'était en 2006. Avant ça, j'avais fait quelques chroniques humoristiques aussi en 2001. Ouais, en 2001, à la TSR, à l'époque ça s'appelait la TSR. Tous les 15 jours, on avait une petite chronique dans Mise au Point, une émission d'actu. Mais c'était pas très drôle, en l'occurrence. C'était censé être drôle, mais c'était les débuts, quoi. Mais c'est un peu des hasards, voilà. C'est quelqu'un qui m'a proposé de lui donner la main pour faire le clown avec elle.
Alors, est-ce qu'on est humoriste ou bien on le devient?
Mais comme pour tout, on le devient.
On le devient?
Tout ce que l'on fait dans la vie, on le devient. Je crois pas que l'inné a beaucoup de place dans quoi que ce soit.
On s'améliore
On a des défauts innés, mais toutes les qualités qu'on a, elles s'acquièrent a priori.
Alors, 120 minutes, c'est tous les premiers samedis du mois.
C'est ça.
Sur la RTS.
Mmh.
Avant, c'était 26 minutes, qui était chaque semaine.
Oui.
Et est-ce que vous préférez une fois par mois? Comme ça, vous avez plus de temps pour traiter l'actualité?
On a plus de temps pour soigner les sujets, les objets qu'on fabrique durant... Bah, par exemple, je ne sais pas si tu as vu le sujet qu'on a fait sur le Kandski ou alors oui. Europa Park.
Oui.
Ça prend du temps à faire et on ne pouvait pas faire... Et c'est plus long aussi. Les tournages et aussi l'objet fini dure 10, 12, 15, même 18 minutes, je crois, Europa Park. Dans 26 minutes, ça prend à peu près toute l'émission, si on en a un comme ça. Donc c'est aussi l'idée d'essayer de faire d'autres, de pas toujours faire la même chose, de changer. Et puis, il y avait le spectacle dont on parlait tout à l'heure, qu'on a continué à jouer depuis on a joué toute l'année, depuis février 2018 jusqu'à il y a 10 jours, on a fini, ou même une semaine. Il y a une semaine, l'avant-dernière. Et donc on avait encore des dates, et quand on avait 26 minutes, tous les vendredis étaient pris par l'émission. Et puis, on a fait 100. Donc, impossible d'avoir quelque chose à côté, comme de la scène, puisque souvent, quand on joue, c'est souvent en fin de semaine. Donc, c'était l'idée aussi de pouvoir avoir un peu de temps pour jouer. Et puis, c'est vrai que tous les vendredis, au bout d'un moment, ça use un peu, parce que le lendemain, on est crevé. Donc, en termes de rythme, c'était aussi assez chaud. Donc, il y a deux raisons. Il y a le confort un peu dans la vie, d'avoir des week-ends de temps en temps pour soi. La place à d'autres expériences professionnelles le week-end du jeu. Et puis l'occasion de développer des formats plus longs, parce qu'on a plus de place à l'antenne avec un format d'une heure et demie, deux heures que d'une demi-heure.
Est-ce que quand vous avez fait votre spectacle, le dernier, c'était à l'Octogone?
Oui, la dernière c'était à l'Octogone mercredi passé.
Vous saviez déjà que vous alliez à Palio?
Oui, c'est pas décidé.
Comme ça, sur un coup de tête.
La conférence de presse c'était avant-hier. C'est un projet qu'on a. Ça s'est décidé il y a quelques mois. Oui, on savait qu'on avait. C'était pas la dernière des dernières.
Donc vous saviez que c'est. Ouais.
On savait qu'on montait un peu en disant que c'était la dernière.
Donc pourquoi au début vous m'avez dit que c'était déjà fini le spectacle?
Parce que j'ai oublié qu'on avait ce truc à Paléo.
Quelles sont les personnalités qui vous a le plus inspiré?
Alors, dans le domaine artistique, plutôt.
Oui, artistique.
Ouais. Mes premiers souvenirs de rire fort, c'était avec Charlie Chaplin, quand j'étais assez jeune. J'ai un souvenir, tu voulais une anecdote, je t'en donne encore une, avec mon arrière-grand-mère, qui avait 80 ans de plus que moi, et chez qui j'étais allé passer un week-end ou une nuit, et on avait regardé un film de Charlie Chaplin qui s'appelle Le Roi à New York, qui n'est pas son meilleur, mais qui comporte des scènes à mourir de rire tout de même, puisque c'est le plus grand clown sans doute de tous les temps, et on a regardé ça ensemble. Je devais avoir 8 ans, et donc elle 88, à peu près. Et on a regardé ce film ensemble, et on a ri les deux très fort, et j'ai eu peur qu'elle meure de rire. Et je me souviens qu'à l'âge de 8 ans, je m'étais dit, tiens, mais si elle mourait, ça serait pas si grave, parce qu'elle a bientôt l'âge de mourir, de toute façon. Puis mourir de rire, c'est quand même assez chouette.
C'est vrai que c'est une belle mort.
C'est une belle mort, ouais. Et donc, je me souviens d'avoir vraiment pleuré de rire et eu un peu peur en la regardant avoir les yeux mouillés. Donc, c'est un souvenir assez tendre, et voilà, du rire qui réunit des générations et puis qui peuvent aller loin dans l'émotion, puisqu'on envisage même d'en crever.
Quand vous faites un rôle à la télé ou bien sur la scène.
Attends, parce qu'il y a d'autres influences. Il n'y a pas que Charlie Chaplin.
Ah, ok, désolé.
Non, mais j'y pense parce que j'ai pas tellement de modèles. Enfin, Charlie Chaplin, c'est un peu. C'est vraiment l'icône de l'artiste complet, puisqu'il faisait de la musique aussi. Il savait composer, il savait mettre en scène, jouer, monter, écrire, faire du business aussi, puisqu'il a créé des boîtes de production pour pouvoir faire ce qu'il voulait en ayant la paix par rapport aux grands studios. Donc ça, c'est un peu l'artiste total. Et puis après, dans les influences, quand j'étais petit, j'aimais bien regarder Les Inconnus, qui était un trio d'humoristes français. Et je devais avoir à peu près votre âge, c'était au collège, et je me souviens que je regardais ça, ça s'appelait La Télé des Inconnus, une émission qui passait sur Antenne 2, on les trouve sur YouTube, tu peux aller voir. Et je voyais ça, et dans mon petit cœur, je me disais, oh, ça comme métier, c'était des sketchs, des parodies, ils se déguisaient, mettaient des perruques, des lunettes, des costumes. Et dans mon petit cœur, je me disais, oh, faire ça comme job plus tard, ça serait fou. Mais je n'osais le dire à personne, parce que si je l'avais dit à quelqu'un, je pense qu'on m'aurait dit, mais tu te prends pour qui ? Ça va ou bien ? Donc je n'osais pas avouer mon rêve, et puis c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est aussi une influence, mais qui était secrète.
Ouais. Vous n'aurez jamais pensé que humoriste, ce serait votre métier.
Ouais.
Bon, ben c'est...
Donc quoi, il faut...
Alors,
moi j'ai tendance à te dire qu'il ne faut peut-être pas trop parler de ses rêves, c'est bien de les garder pour soi.
C'est vrai.
Je trouve, ça c'est en tout mon expérience. Après, il y a des gens qui les... exposent. Ah, moi je veux faire rockstar.
Astronaute.
Ou bien footballeur professionnel. Ceux qui disent ça, c'est peut-être ça porte la poisse.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, sur le plateau, il arrive souvent que vous tapez des petits fous rires. Mm-hmm. Et il y en a qui sont
des
quand
gros,
même...
des fois.
Ouais, ouais. Vraiment assez... Comment vous faites pour essayer de vous reprendre ? Est-ce que... Parce que vraiment, c'est assez flagrant quand on voit, vous pouvez partir à tout moment, mais...
On se dit, allez. Y a pas de méthode, respiration, ouais. Et puis on sait que c'est les gens, ils aiment bien, alors on n'a pas honte, on sait que ça, les gens apprécient, on les cherche pas parce que sinon ça serait faux et du coup ça serait moins précieux parce que les gens se rendraient compte que c'est chiqué, que c'est du bullshit, donc on essaye de faire, de pas les provoquer, puis quand ça arrive, on se laisse un petit peu aller dedans parce que ça fait du bien aussi, mais il faut pas que ce soit trop long parce que du coup ça deviendrait. Enfin, il faut quand même qu'on aille au bout. Il y a la pub après.
Bah oui. Oui, il faut tout le temps respecter les.
La grille, l'horaire. Ouais.
Le 2 mars dernier, Jean-Claude Bivert vous a offert du fromage.
Je l'ai pas goûté.
Vous l'avez pas goûté ? Vous aimez vraiment pas le fromage alors ?
J'aime pas trop le fromage. Je l'ai filé à quelqu'un qui aime bien. En fait, j'avais un cousin parisien qui était là pour le week-end, et puis qui m'a dit oh, « il a l'air bon », je lui ai dit « putain, c'était un monstre bout, puis je suis pas fan du gruyère ».
Parce que vous l'avez dit « j'aime pas le fromage », mais je pensais que c'était dans votre rôle. Ou bien...
Non, c'est assez vrai, j'aime bien le gruyère râpé sur des pâtes avec du beurre et du sel. Enfin non, pas de sel, puisqu'il y a du gruyère. Mais sinon, j'aime bien mettre du fromage râpé sur les pâtes, plutôt du gruyère, ça fait un peu suisse allemand, non, mais plutôt du parmesan. Mais il y en avait beaucoup, ça aurait fait une grosse pâtée de pâtes.
Est-ce que, après le spectacle Le Fric, vous avez d'autres projets en tête pour le futur ? Un autre spectacle ou pourquoi pas un film ?
Ouais, on a des projets, mais on aimerait bien faire un film, ouais.
Un film ?
Mais ça prend du temps, c'est un autre rythme. Ça coûte très cher, donc il faut trouver de l'argent. C'est un projet beaucoup plus ambitieux en termes de planning, donc. Mais on a une envie de film, spectacle, il n'y a rien de concret, mais on va. On sait. Là, moi, depuis que je fais ce métier, donc depuis, je vais dire, 15 ans, je réfléchis toujours d'année en année.
Et si vous faites un film, ce serait plus sur l'humour ou bien.
Pas forcément.
Ça pourrait
être. Il y aura forcément toujours un peu d'ironie, mais tu vois, il y a des trucs qu'on fait dans l'émission qui sont pas toujours monstres drôles, des fois c'est un peu touchant, enfin, on essaye. Un peu triste parfois, c'est assez cool de ne pas que rire, mais parfois de aussi gratter. La cruauté parfois fait sourire un petit peu, puis un peu réfléchir, et ça c'est aussi intéressant. Il n'y a pas besoin de toujours faire.
Vous pouvez faire un film sur Je suis Sébastien, Ich bin Kranks. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur 26 minutes.
Ah oui, je me souviens. Ouais.
Ça m'avait bien fait rigoler aussi, ouais, ça.
Je me souviens.
ça vous est déjà inspiré de, ça vous est déjà arrivé de plus du tout avoir d'inspiration pour des...
Heureusement pas, mais j'en parlais tout à l'heure avec un pote. Demain j'ai la chronique à la radio et je sais pas du tout ce que je vais faire encore. Et en venant tout à l'heure ici, je me suis dit, oh, mais putain, j'aurais pas d'idée. Et en fait, ça fait depuis 15 ans que j'ai ça. Quand l'été approche, on est encore loin, là, on est fin mars, mais où ça fait, oh, peut-être j'ai plus d'inspiration, peut-être c'est fini. Mais c'est chaque année que ça arrive. Les derniers mois avant l'été sont parfois un peu durs parce qu'on a beaucoup donné pendant l'année, puis le cerveau est, enfin, le robinet à conneries est un peu sec.
Vous pouvez parler de Radio Cactus si vous avez besoin d'inspiration.
Non, il faut des sujets qui intéressent les gens.
Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait se lancer dans l'humour ou bien dans...
De changer de projet.
Changer de projet.
Mais non. Quel conseil je donnerais de trouver peut-être sa propre façon de le faire et de ne pas copier ce qui se fait. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent faire du stand-up et je trouve que c'est... Moi, je ne suis pas très client de cette forme-là. Et à peu près tout le monde rêve. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se ruent dans ce format-là. D'être... téméraire, d'oser faire des choses un peu différentes et puis de faire ça avec sérieux. Même ouais. Si c'est. Faut déconner, faut déconner. Non, moi je considère que tout doit se faire avec engagement, sérieux et travail.
Pas avoir peur de se lancer.
Pas avoir peur de se lancer, mais être conscient du fait que c'est un. Si on veut faire quelque chose de qualité, ça implique de faire des efforts. Et la notoriété, c'est pas un but en soi du tout. C'est pour moi plutôt un effet collatéral, pas quelque chose de souhaitable et de souhaité. Les gens qui font ça juste pour être connus, eh ben, ils se trompent sans doute assez fort.
C'est pas le même objectif.
C'est pas je pense que ça doit pas être un objectif.
Ouais. Dans vos émissions, vous parlez de tous les sujets, qu'ils soient sensibles, drôles ou étranges. Mm-hmm. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un problème avec association ou bien...
Non, jamais.
Communauté? Rien.
Non.
Base.
Ouais, il y a eu un ou deux, mais très. Enfin, non. En fait, non, jamais de problème. Deux, trois réactions, mais assez peu. La dernière que je peux mentionner, c'est des Brésiliens qui ont été un peu choqués d'un sketch qu'on a fait sur la première sur l'élection de Bolsonaro, le fasciste là au Brésil. Et puis, apparemment, il y a beaucoup de pro-Bolsonaro de Brésiliens immigrés en Suisse pour le coup, pro-Bolsonaro, puis il y en a qui ont gueulé pour dire. C'est pas votre problème.
Bah, rien d'alarmant pour l'instant.
Rien d'alarmant, on n'a pas... Non.
En tant qu'humoriste, est-ce que des gens vous demandent des fois dans la rue « Fais-moi une blague ».
Ouais.
Ça vous arrive ?
Ouais, ça m'est arrivé quelques fois.
Qu'est-ce qu'il faut leur répondre à ces gens-là ?
Bah, je leur dis que je suis pas en train de bosser, je suis dans la rue.
C'est...
Et puis ils partent, on dit « Il est chiant celui-là ». Ils sont déçus.
Il est pas comme à la télé.
Il est pas comme à la télé, ouais.
Voilà.
Non, mais j'essaie d'être bienveillant quand j'ai des demandes comme ça, mais il n'y a pas de fente pour mettre une pièce, pour ouais. Sortir chier un gag comme ça, non.
C'est un travail.
Ouais, puis comme je te disais au début de l'interview, il y a des fois des gens qui m'abordent au bar et puis qui sont sûrs que je vais être super drôle, trop fun, trop sympa, puis ils se rendent compte qu'en fait, je suis quelqu'un de normal, et puis que... Puis que je suis pas un bout en train, toujours en train de faire le con.
Faut faire la différence.
C'est ça.
Voilà, chers auditeurs, nous arrivons au bout de notre interview. Merci beaucoup, Vincent Cuchol, d'être venu.
Merci de m'avoir
beaucoup de plaisir.
Invité. Mais moi aussi.
C'était super cool. On espère que vous avez eu du plaisir à écouter cette interview. Cette interview, vous pouvez toujours l'écouter sur www.radiobus.fm.
T'as oublié un W, mais je crois que les gens savent qu'il y en a trois. Voilà.
radiobus.fm.
Voilà.
Aussi, vous pouvez réagir au numéro
078-748-18-91. On répète.
078-748-18-91. Exactement. Ou 91. Si
ouais.
On a des auditeurs en France, on sait jamais. Et voilà, merci beaucoup. On se retrouve après Mylène Farmer, Désenchanté.
Radio Cactus, la radio qui vous plante.
C'était Mylène Farmer et maintenant notre mini-chronique sur le groupe Wu-Tang Clan et leur titre Cream. Cream signifie Cash Rules Everything Around Me, autrement dit l'argent dirige tout autour de moi. Certainement, à la plupart des chansons de rap, cette époque, celle-ci souligne l'importance d'obtenir de l'argent plutôt que de le dépenser. Elle montre également aux jeunes que vendre de la drogue n'est pas une bonne façon de gagner de l'argent et que le travail et la créativité permettent de vivre mieux.
Le couplet « Didn't speak that Dake » est souvent considéré comme l'un de ses plus gros, de ses plus beaux, car il parvient à résumer toute sa jeunesse dans le ghetto. Les sujets qu'il couvre sont grandir sans son père, le recours à la drogue et en être arrêté. Son arrestation, Dake, on a une nouvelle vue de la société, car il croit que la vie dans la société actuelle n'est pas différente à celle dans une cellule.
Voilà, c'est déjà la fin de notre mini-chronique, et même malheureusement la fin de notre heure d'animation. Mais on espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter, en tout cas nous on en a pris à animer. Et maintenant on écoute Anaïs qui va nous présenter leur heure d'animation.
Alors, au programme, il y aura un petit point météo. Vers 14h18, Raphaël et Elisa nous feront une chronique sur notre futur et sur le climat. Par la suite, nous parlerons des bons plans pour les vacances à venir. Puis, Jess et Evan intervieweront Quidzy. Ensuite, nous parlerons des événements dans la région. Et pour finir, nous remettrons l'antenne à Samy.
Merci Anaïs, maintenant c'est à vous. Mais avant, on s'écoute Jacques Dutronc, Les Cactus. C'était Lénie et Nico. À bientôt sur Radio Cactus.
Leur cactus.